Bonjour et bienvenue à l'École des Ponts Paris Tech pour cette 13e matinale des ponts consacrée aux mobilités. Pour le confort de tous, je vous remercie de garder vos micros et caméras fermés durant toute la conférence et je vous invite à écrire vos questions et vos commentaires dans l'onglet Conversation, deuxième picto en haut à gauche de votre écran. Vos questions seront traitées au fil de l'eau, soit dans le chat, soit injectées dans le débat par l'animateur. Alors, cette séquence est enregistrée et sera disponible sur le site internet de l'École des Ponts. Si vous ne voulez pas voir apparaître votre nom, pensez à modifier vos identifiants en conséquence. Nous partons donc pour 1h30 de débat, en commençant par l'introduction de Madame Sophie Mougard, directrice de l'École des Ponts Paris Tech.
Bonjour, bonjour à toutes et tous. C'est un plaisir de vous retrouver à ces matinales des ponts. Vous le savez, nous avons souhaité des rencontres entre l'école et les entreprises qui nous invitent à réfléchir ensemble aux défis que nous pouvons partager, nous aider dans le développement de notre compétitivité, notre capacité à innover. Alors, nous ne sommes pas encore en mesure de vous accueillir physiquement à l'école et j'espère bien, ou à la Maison des Ponts. Et j'espère bien que la prochaine édition, à la rentrée, nous permettra de nous retrouver ensemble dans un lieu convivial également. Cette crise sanitaire qui nous en empêche, elle nous donne aussi l'occasion de débattre d'un sujet qui est au cœur des expertises de l'École des Ponts, que sont les mobilités. Puisque depuis mars 2020, finalement, cette crise elle a impacté à la fois l'offre et la demande de transport. Si on regarde la demande, après une période particulièrement inédite de restrictions très fortes de la mobilité, aujourd'hui, c'est la question de l'impact que pourra avoir le télétravail sur la mobilité qui est posée. Va-t-on observer un lissage des heures de pointe favorable à la décongestion des zones les plus saturées ou des lignes les plus saturées? Est-ce qu'on va assister à une baisse progressive du nombre de déplacements domicile-travail, qui était réalisé majoritairement en voiture particulière? On a un impact ambigu hein, sur les émissions globales de gaz à effet de serre, peut-être du fait d'une plus grande liberté de choix pour la localisation de l'habitat grâce au télétravail, qui peut permettre aux salariés aussi un accroissement des distances domicile-travail. Et puis en matière d'offres, on a noté un espace public qui s'est adapté, qui s'est adapté rapidement pour répondre aux règles de distanciation physique, mais répondre aussi à des demandes nouvelles de mobilité, notamment des modes actifs, avec des aménagements temporaires, ce qu'on a pu appeler l'urbanisme tactique, comme les pistes cyclables ou la piétonnisation d'un certain nombre de rues, l'élargissement des trottoirs, l'installation de contre-terrasses sur les places de stationnement. Voilà, si on regarde juste sur le Grand Paris, ce sont près de 210 km de pistes cyclables temporaires qui ont vu le jour. Alors, est-ce que ces initiatives vont changer durablement les habitudes de mobilité en faveur des modes actifs, en sachant que près de 70% des déplacements internes à la métropole font moins de 3 km, par exemple, et que 45% des trajets domicile-travail des habitants font moins de 5 km, c'est-à-dire un gros quart d'heure de vélo. Voilà, je crois que cette crise, elle peut aussi être un moment privilégié pour repenser la mobilité et l'inscrire dans une trajectoire que l'on souhaite tous plus soutenable. Et au-delà des impacts de court terme, une crise qui peut aussi entraîner des changements importants pour le secteur. En tout cas, c'est une occasion pour l'ensemble des acteurs publics et privés de se mobiliser et d'essayer d'éviter un scénario d'un retour à une mobilité majoritairement carbonée, comme on l'a vécu. Un peu plus d'un an après la promulgation de la loi d'orientation des mobilités, dans un contexte particulier qui est France Relance, je crois qu'il était important qu'on puisse s'interroger sur nos rapports à la mobilité et peut-être revisiter les schémas de nos déplacements. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour échanger sur cette thématique, nous avons réuni un panel de haut niveau, composé à la fois d'experts de l'école et de représentants de deux acteurs, de parties prenantes essentielles de la mobilité, qui sont les collectivités, les autorités organisatrices et puis les opérateurs de mobilité. Vous le savez, l'école des ponts ParisTech se veut l'école de la transition écologique et du développement durable. Et bien sûr, elle s'est emparée de ces questions à travers ses activités de recherche, à travers sa formation des ingénieurs, mais également ses autres formations que sont les masters spécialisés et notre doctorat. Et nous avons voulu une approche pluridisciplinaire dans nos 12 centres de recherche, en favorisant les synergies entre les laboratoires et en assurant un continuum entre recherche amont et recherche appliquée. Et dans cette recherche appliquée, dans ce partenariat avec les entreprises, je crois que les chaires de recherche sont une excellente illustration. Et j'en citerai deux qui traitent particulièrement la question d'aujourd'hui, à savoir les mobilités urbaines. D'une part, la chaire intitulée « Quelle régulation pour la ville de demain ?» qui vise à comprendre, à anticiper les besoins des villes et en particulier en s'appuyant sur le MAS, le Mobility as a Service. Et ce sont nos deux laboratoires, le LATS, le laboratoire technique, territoire et société, et le LVMT, le laboratoire ville, mobilité, transport, qui sont concernés et qui portent ensemble cette chaire conclue avec la RATP en juillet 2020 sous l'impulsion de sa directrice de la stratégie de l'innovation et du développement, chère Marie-Claude Dupuis, que je salue et que je remercie encore pour sa confiance dans le cadre de cette chaire. Et je suis vraiment ravie de t'accueillir pour ta participation à cette matinale. Merci encore. Et puis une deuxième chaire avec Île-de-France Mobilité qui a été renouvelée en 2020. Donc c'est un partenariat qui s'inscrit avec de grandes perspectives après une première période de 10 ans sous un nouveau nom, Mobilité Territoriale, qui démarre un programme de recherche avec le CIRED, le Centre International de Recherche sur l'Environnement et le Développement, sur les questions de modélisation, de simulation, l'économétrie et la théorie économique de la mobilité, sous la direction de Fabien Laurent, professeur à l'École des Ponts, qui nous fait part aujourd'hui de l'état de l'art de la recherche sur ces questions, qui font bien sûr écho à celles que se posent bien des autorités organisatrices, notamment les régions. Et je voudrais remercier Nicolas Fontaine, directeur général adjoint de la région Grand Est, qui est venu témoigner, je le remercie, à cette matinale. Voilà, au cœur de notre mission, nous formons tout au long de la vie. Donc, il y a aussi de la formation continue. Tout au long de la vie, des ingénieurs à fort potentiel qui sont acteurs du développement durable et qui doivent être en capacité d'y apporter des contributions décisives, engagées, au service des transitions énergétiques, écologiques et numériques. Et c'est particulièrement le cas du département ville, environnement, transport, que préside François-Laurent Touzin. Et je crois que il aura plaisir, je le dis pour lui, à partager sa vision de l'enseignement et la refonte qu'il conduit de l'enseignement pour que les futurs ingénieurs puissent durablement adresser les mutations dans ces domaines. Voilà, je serai brève sur nos programmes spécialisés. Je pense qu'ils seront évoqués lorsqu'ils sont notamment adossés au département VET, mais aussi au pôle Action publique pour le développement durable et enfin dans nos développements, notamment en Afrique, avec le master professionnel transport et aménagement urbain qui est soutenu par la Banque mondiale. Vous le voyez, des actions nombreuses. Je voulais vous indiquer que, comme pour les précédentes éditions, ces matinales seront complétées par l'édition du Cahier des Ponts, une publication trimestrielle de l'école que nous aurons évidemment le plaisir de vous adresser pour prolonger nos réflexions et nos travaux. Donc, encore une fois, je suis très heureuse de vous accueillir, de pouvoir échanger avec vous sur ces transformations des mobilités après la crise sanitaire. Et je vais passer la parole à Stéphane Lemonçu, journaliste, qui va animer cette matinale en nous souhaitant ensemble une très belle table ronde. Merci.
Bonjour à tous, merci Sophie Mougard. Nous allons débuter ce programme très ambitieux sur les mobilités. Quelle transformation après la crise sanitaire? C'est la question que nous nous poserons ce matin et nous aborderons ensuite trois grands thèmes. Quelle mutation pour la mobilité des années 80 jusqu'à 2019? Quel impact de la crise sanitaire sur les mobilités? Et quels enjeux et quelles caractéristiques pour les mobilités de demain et d'après-demain? Mais tout d'abord, nos quatre intervenants vont se présenter, présenter un petit peu chacun à leur tour leurs orientations sur ces sujets et puis leurs activités. On va débuter tout de suite avec Fabien Lerand, chercheur au CIRED, directeur de la chaire mobilité territoriale et professeur à l'UNPC, avec, si vous le voulez bien, une petite photographie d'abord, savoir, est-ce que Fabien Lerand, vous pouvez nous expliquer en deux mots, nous donner une petite définition de la mobilité urbaine et périurbaine.
Oui, bonjour à tous. Alors une définition, je vais vous projeter une image, si vous voulez bien, qui remplacera un long discours. Voilà. Donc une vue d'artiste de la mobilité des personnes qui se déplacent avec différents moyens de transport, une vision assez positive de la ville, de la mobilité pour tous, des piétons, des voitures, des transports collectifs aussi, et puis aussi, une attention aussi aux personnes à mobilité réduite. Et vous voyez qu'il n'y avait pas de masque et qu'il n'y avait pas non plus personne le nez dans un smartphone. Ça datait de 2003. Alors, je dirais que ça, c'est la partie émergée de la mobilité. C'est notre propension à nous déplacer pour réaliser des activités dans des lieux. Nos déplacements, c'est pour aller d'un endroit à un autre. Parfois, c'est des promenades pour le plaisir, mais le plus souvent, ça a quand même un caractère utilitaire. Donc, je dirais que ces mouvements, c'est la partie émergée de la mobilité et qu'il faut aussi comprendre la partie immergée. J'espère que ces cartes sont suffisamment éloquentes. Partie émergée, immergée qui va avoir pour mot-clé le territoire et donc une certaine configuration d'activités qui sont établies dans les lieux, notamment des populations qui résident, des personnes comme vous et moi qui habitent le territoire, des emplois. Parce que c'est finalement pour produire aussi qu'on est réunis dans des grandes agglomérations. Tout cela sont une certaine configuration dans l'espace avec, évidemment, la question des réseaux de transport qui structurent tout cela. Alors, il y a des effets de système et c'est au cœur de nos recherches de comprendre quels sont les effets de système. Par exemple, comment est-ce que les transports collectifs vont nous permettre de dégager des économies d'échelle dans la production des services de mobilité, mettre 50 personnes dans un autobus, pourquoi pas jusqu'à 3000 dans un RER, donc des grandes économies d'échelle, qui ne peuvent s'appliquer que dans certains contextes de densité favorable et qui vont permettre de produire en particulier des économies d'agglomération. Alors, j'ai envie de dire, en évitant des économies qui peuvent être de la congestion comme on la connaît sur les réseaux routiers, mais les voyageurs savent bien qu'on peut avoir aussi de la congestion dans les transports en commun. Alors voilà une définition rapide, partie émergée et partie immergée et de complète. La mobilité. Alors, j'ai commis aussi un petit transparent pour adresser la question suivante que me destine Stéphane. Question suivante qui était sur les enjeux de la mobilité à l'horizon 2050.
Et oui, parce que c'est dans ce contexte-là que nous évoluons tous au quotidien dans nos prises de décision.
Voilà. Alors, j'ai préparé deux autres images pour répondre encore à cette question-là. En 2050, la mobilité restera de la mobilité, un service rendu à des personnes, dans le cas qu'on considère. Et donc, deux mots-clés, c'est vraiment le temps et le confort. Combien de temps est-ce qu'on passe à se déplacer ? Est-ce que nos solutions de transport sont compétitives par rapport à la destination qu'on veut rejoindre ? Vous le savez maintenant, grâce à Google Maps, on a tout de suite la comparaison des temps de parcours des différents modes. Faut faire attention après pour voir si on a bien compté le temps d'attente ou le temps d'accès. Alors quand c'est Uber, c'est bien, c'est lui qui vient à nous, mais quand il faut aller chercher son Vélib, il faut quand même aller jusqu'à la station. Donc le temps est un paramètre très important pour tout le monde qui se déplace, et le confort avec, disposer d'un moteur, d'un siège, éventuellement quelqu'un qui conduise à notre place, et ce qui est réalisé bien sûr quand on est dans les transports collectifs, tout autant que dans un taxi, et puis après ce serait aussi le confort de la voie, est-ce que notre voirie est confortable à utiliser ? Question qu'il ne faut peut-être pas négliger quand on s'occupe de partager la voirie. Et je terminerai mes images avec Donc, en insistant pas seulement sur le fait que la mobilité à l'horizon 2050 reste un besoin à servir avec une grande qualité, mais il faudra bien sûr satisfaire les contraintes planétaires compte tenu de ce qui nous reste comme enveloppe d'émissions de carbone. Donc là, j'ai emprunté à Anne de Bortoli les résultats très récents pour une comparaison environnementale en cycle de vie des différents modes de transport qui servent en agglomération parisienne. Vous voyez qu'il faut considérer toutes les phases du cycle de vie, qu'il y a le véhicule, bien sûr, sa fabrication, ensuite son usage, la partie bleue, et ça va être typiquement des consommations d'énergie. Il faudra faire attention à quel est le mix énergétique. Bon, si c'est un carburant fossile, c'est assez rapide à imaginer. Si c'est de l'électricité, il faut regarder de plus près. En France, pour l'instant, on a une électricité peu émettrice. À l'horizon 2050, on aura moins de nucléaire. Il faudra se préparer à mobiliser les énergies renouvelables de manière vraiment très massive. Et puis, vous voyez que pour certains modes, il y a une partie alors, qui est marquée « servicing » qui renvoie à la logistique de l'exploitation. Typiquement, quand vous avez des trottinettes partagées disponibles en « free-floating », comme on dit sur la voirie, il faut des personnes qui passent les entretenir, les recharger en énergie surtout, et ça peut faire beaucoup dans le bilan environnemental. Il faut faire attention à tout ça. Voilà, donc les enjeux, pour moi, les enjeux 2050, c'est essentiellement la socio-économie qui de servir la mobilité et ses enjeux socio-économiques tout en satisfaisant l'enjeu environnemental et particulièrement climatique.
J'allais résumer en disant des enjeux à la fois économiques, environnementaux et sociaux complexes auxquels nous sommes tous confrontés. Quels sont les axes de réflexion de la recherche aujourd'hui ?
La recherche va s'intéresser à ces systèmes de mobilité à tous les niveaux. On parlait de demande de mobilité, donc typiquement sur la demande de mobilité, on s'intéressera à la géographie de cette demande selon les différents types de territoires. Ce matin, on va beaucoup parler, je crois, de villes, mais aussi plus largement d'autres territoires du quotidien, des territoires diffus. Donc géographie, économie, il faut qu'on comprenne les raisons profonde des comportements des gens. On a eu l'illustration de la crise des gilets jaunes où le déclencheur était quand même une hausse du prix des carburants. Donc oui, la mobilité, ça coûte de l'argent et attention au pouvoir d'achat des habitants. Sociologie, bien sûr, ensuite, quelle est la perception sociale de la mobilité politique. Et puis, donc tout ça, c'est sur la demande et au-delà de la demande, je dirais, les politiques publiques qui sont mandatées quand même par nos concitoyens et donc par la demande, en fin de compte, de manière indirecte. Oui. Et puis, il y a tout un volet d'offres avec, quand même, si je dois tirer le bilan de la dernière décennie, on a bénéficié d'innovations formidables dans la mobilité.
Alors, ne déflorez pas trop notre programme de la matinale, Fabien. On y reviendra juste après. Je me permets de vous interrompre pour donner la parole à François-Laurent Touzin. Merci déjà pour cette présentation du contexte auquel nous sommes tous confrontés. François-Laurent Touzin, vous êtes le président du département Ville-Environnement. Transport de l'école des ponts ParisTech. La mobilité, elle demande quelles compétences justement pour répondre aux enjeux qui se présentent à nous.
Oui, bonjour à tous.
Et bonjour, évidemment.
Pour cette question. Alors, comme le disait Sophie dans son introduction, j'ai grand plaisir à effectivement vous parler à la fois des compétences requises de l'offre et puis des orientations nouvelles. Alors, pour parler effectivement des compétences, alors. Il faut savoir que donc, l'école et la formation d'ingénieurs comptent 6 départements, parmi lesquels effectivement ville, environnement, transport, que ces 6 départements sont, leur enseignement est structuré autour d'un référentiel de compétences commun qui vise à former des acteurs du développement et de l'aménagement durable dans toutes ses dimensions. L'enjeu de ce référentiel de compétences est de former donc des acteurs reconnus au niveau national, mais aussi international. Parmi ces compétences, il y a quatre familles qui répondent particulièrement aux enjeux de la matinale. Première famille de compétences relève de la compréhension de la réalité physique des phénomènes par la science pour se poser les bonnes questions. Il s'agit d'aujourd'hui d'une compétence structurellement particulièrement cruciale dans la mesure où de nouveaux points critiques apparaissent. Fabien en parlait, la préoccupation environnementale, la nécessité de compter ce qui n'était pas forcément compté jusqu'à présent. La deuxième famille de compétences relève de la maîtrise des techniques et de modélisation pour prévoir, optimiser, et on le voit dans la situation actuelle et passée récent de la crise sanitaire, aussi s'adapter. Troisième famille consiste à connaître les cadres normatifs et institutionnels, d'une part avec une approche scientifique et technique, leur raison d'être, mais aussi historique, notamment par rapport à ce qui nous préoccupe aujourd'hui, comment la mobilité est-elle devenue non durable, pour reprendre un des fondamentaux du cours Défis et définition des mobilités durables, mais aussi prospective, avec des grandes questions comme faut-il sortir du paradigme de la métropolisation. Cette connaissance des cadres normatifs institutionnels doit permettre aux élèves de se positionner à la fois stratégiquement et tactiquement, notamment vis-à-vis des dispositifs de soutien qui sont portés au niveau national et au niveau international, et de les rendre véritablement des acteurs du changement à l'interface entre science et société. Dernière famille de compétences clés, créativité, agilité, leadership, à la fois pour concevoir de manière tactique, astucieuse, des solutions, mais aussi être capable de les mettre en œuvre et de conduire des changements massifs, et aussi pour pouvoir s'adapter et être résilient. Donc voilà. Schématiquement, de manière assez conceptuelle, mais en même temps pratique, les compétences requises.
Quelles sont les nouvelles approches que vous développez aujourd'hui ?
Alors, peut-être un rappel finalement, parce que ces approches s'expriment dans une offre de formation qui évolue en permanence, mais qui aujourd'hui se répartit entre une formation initiale, formation d'ingénieur, comme le rappelait Sophie, et également des formations continues. Alors peut-être rappeler une chose, c'est que donc le département VET, c'est un département donc qui est choisi par les étudiants et les ingénieurs en fin de première année. Qui est une forme de spécialisation, que l'offre de formation concernant la mobilité, elle démarre et elle va démarrer encore plus dès la première année, puisque vont être exprimés, expliqués aux élèves, à tous les élèves, quels que soient les départements qu'ils choisiront ensuite, ce qui fait ou ce qui va faire la mobilité en termes de besoins sociétaux, d'évolution démographique, mais aussi ce qui la contraint en termes d'énergie, de matière, d'espace, comme le disait Florent.
Donc elle irrigue l'ensemble des parcours.
Oui, tout à fait. Et absolument. Et c'est en deuxième et en troisième année, donc dans le cadre d'un choix de département, que seront abordées sous toutes les facettes la mobilité, de la planification à la gestion, de l'étude des comportements à l'analyse du cycle de vie, de la logistique du dernier kilomètre au système de transport régional et national, de l'infrastructure au matériel roulant, de la tarification au système d'intermédiation et plus récemment de désintermédiation, du big data à l'aménagement des quartiers de gare et j'en passe. L'idée étant de pouvoir avoir à la fois une approche totalement systémique et en même temps très focalisée et experte sur ces différentes composantes. Il s'agit donc là de la formation d'ingénieur et qui est complétée ou prolongée par différents masters, notamment le master transport et développement durable et le master transport et mobilité qui offre des approfondissements, notamment autour des externalités des transports en troisième année. Enfin, plusieurs formations, pardon, formations continues permettent à des professionnels de se spécialiser ou de se mettre à niveau, en particulier le master Smart Mobility qui décrypte les enjeux de la donnée au service de la mobilité et donne les clés de leur exploitation à des fins de planification, de gestion, de qualité de service et aussi de sobriété. Également le master système de transport ferroviaire et urbain évoqué en introduction. Donc, pour répondre à votre question sur les nouvelles approches, et les nouveaux terrains d'apprentissage à explorer également. Tout d'abord, savoir qu'elles sont issues d'un travail qui s'est déroulé au premier semestre de cette année, un travail de comparaison internationale avec les meilleurs établissements européens et asiatiques et nord-américains notamment, visant à conforter le département VET comme département de rang mondial en sciences techniques mathématiques au service de villes et territoires durables. Donc ça, c'est ce qui est à l'origine de ces évolutions. Et il ne s'agit pas d'une révolution, mais plutôt d'évolution et d'accentuation de certains aspects. En particulier, la question des domaines qui sont traités au sein de VET. Il s'agit d'un département qui propose d'étudier de manière assez unique, en fait, dans l'offre mondiale de formation de haut niveau, les trois dimensions ville, environnement, transport, qui forment, comme l'a expliqué Fabien, un système qu'il s'agit de pouvoir appréhender et mettre en perspective. La deuxième chose, c'est l'approche pédagogique, qui est à la fois systémique et scientifique, et qui insiste beaucoup sur le fait que les solutions sont en fait une combinatoire de solutions qui lui relève de l'évitement, de la réduction et de la compensation des actions. Troisième axe de réforme concerne le périmètre géographique avec un accent mis sur l'international, la mise en perspective à partir de cas français des enjeux internationaux à titre de comparaison et aussi d'apport, hein, d'apport d'expériences étrangères. Également un levier d'interdisciplinarité avec notamment la conduite de travaux sur projet avec d'autres départements qui mobilisent notamment les instruments financiers, informatiques et mathématiques. Autre levier, celui de l'efficience. Il s'agit d'améliorer la coopération et l'alignement sur projet entre les mondes de la recherche, de l'enseignement, de l'action publique et de l'entreprise. Je citerai deux exemples pour terminer. Et je dirais ces différents leviers, ils sont tous assortis d'un point commun qui est une exigence d'excellence. En mathématiques, programmation informatique, utilisation de logiciels dédiés d'études et de gestion du trafic ou d'analyse cycle de vie. Pour terminer avec deux exemples concrets qui sont aujourd'hui finalement des projets qui sont les réceptacles en fait, de ces différentes approches. Une semaine d'ouverture au mois de septembre 2021 qui va consister à challenger la logistique des Jeux Olympiques avec Paris 2024 et par extension celle des grands événements internationaux. De l'échelle du chantier à celle de l'axe Seine, prise en compte des enjeux de mobilité de la Seine-Saint-Denis au Havre, pour des jeux qui soient à la fois spectaculaires, innovants et révolutionnaires, pour reprendre la baseline de Paris 2024, à coût maîtrisé. Enfin, autre exemple, diviser par deux les émissions de carbone de la logistique de chantier. Aujourd'hui, la ville est contrainte à se renouveler, donc le renouvellement urbain devient, je dirais, la norme. Comment est-ce qu'on fait pour diviser de manière substantielle les émissions de carbone liées à la logistique, qui est un poste extrêmement important, en appliquant...
Ah, on n'a plus de micro concernant... François Laurent, votre micro est coupé.
Oui. Est-ce que vous avez peut-être le dernier exemple?
Allez-y, reprenez-le peut-être. Prendre deux mots.
Effectivement. Donc, deuxième exemple, deuxième axe de travail hein, sur projet, divisé par deux les émissions de carbone de la logistique de chantier par la mise en œuvre des principes de la supply chain appliqués au renouvellement urbain.
Donc on a bien compris que l'idée, c'est aussi de matérialiser concrètement avec des approches R1 partagées avec différents acteurs les enseignements que vous développez et de challenger aussi vos étudiants. Mais on y reviendra tout à l'heure dans le troisième thème de cette matinale. Marie-Claude Dupuis, c'est votre tour. Vous êtes la directrice de la stratégie de l'innovation et du développement pour RATP Group. Petit rappel sur l'activité de RATP Group, parce qu'on a souvent une vision assez réductrice à la fois de l'histoire, de l'implantation internationale, des modes de transport qui sont développés.
Oui, tout à fait. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, la RATP est vraiment connue pour son métro à Paris. C'est dans le monde entier, quand on dit RATP, on pense tout de suite à ça, mais ce n'est pas uniquement ça. La RATP, c'est 63 000 salariés, dont près de 20% hors de France, notamment pour ceux qui travaillent auprès de notre filiale RATP Dev, qui a été créée en 2002, justement pour développer l'activité du groupe hors d'Île-de-France et à l'international, en France et à l'international. Et donc, c'est un chiffre d'affaires de 5,5 milliards. Nous sommes aujourd'hui le quatrième opérateur de transport public au niveau de transport urbain au niveau mondial, et si les mouvements s'annoncent, se font comme prévu, à la fin de l'année, on arriverait au troisième rang en tant qu'opérateur de rang mondial. 13 pays, 4 continents, et nous opérons en fait 8 modes de transport en direct. Alors les 4 classiques qu'on voit en Île-de-France, notamment donc le RER, le métro, le tram, le bus, mais aussi le sightseeing, le transport à la demande, les navettes fluviales et le câble urbain.
C'est le tourisme.
Oui, le sightseeing, c'est le tourisme. On vient de relancer notre activité récemment à Paris avec des bus propres. La RATP, donc j'ai beaucoup parlé de mobilité, mais ce n'est pas uniquement un opérateur de mobilité, puisque nous sommes aussi un grand bâtisseur, un gestionnaire des infrastructures. C'est la RATP qui gère les 200 km de métro de Paris historiquement. Et nous avons un certain nombre de filiales que nous avons créées justement pour soutenir l'activité cœur de métier, hein, qui est celle de transporter les personnes en ville. Et ces filiales, c'est par exemple des filiales dans le domaine de l'immobilier. On a une filiale qui s'appelle RATP Habitat qui gère 8500 logements, dont près de la moitié des logements sociaux. Une filiale RATP Real Estate pour tout ce qui est facility management, non, pour les bâtiments tertiaires, mais aussi les bâtiments industriels, puisqu'elle prend même en charge la transition énergétique de ces bâtiments. Une filiale dans le domaine des télécoms, RATP Connect, qui gère plus de 2000 km de fibres optiques en souterrain. Et une filiale d'investissement, RATP Cap Innovation, pour investir dans des startups de nouvelles mobilités, ce qui nous permet de compléter notre offre de mobilité. Et d'ailleurs, on a souhaité renforcer le développement, enfin soutenir le développement de ces filiales en les réunissant autour d'une business unit qu'on appelle RATP Solutions Ville, la petite dernière créée cette année. Et puis, nous avons au moins 2 autres filiales que je voudrais citer. RATP Travel Retail, qui gère tous les espaces de commerce du métro. C'est le premier centre commercial d'Île-de-France. Il est dans le souterrain, dans le métro. Et puis, RATP Smart System, qui est notre filiale tech IT au service de la mobilité et qui vient de racheter Mappy, et avec laquelle, d'ailleurs, on vient de lancer une nouvelle application MaaS. Donc, la RATP, c'est tout ça. La RATP a été créée il y a plus de 70 ans maintenant et nous sommes en pleine transformation actuellement pour répondre à 3 grands défis. L'ouverture à la concurrence de la mobilité, enfin du réseau en Île-de-France. On perd notre monopole à partir de 2024 pour les bus.
C'est ça, c'est demain.
Voilà. Deuxième défi, la transition numérique, digitale, puisque la mobilité aujourd'hui, elle est multiple et on a vu arriver des grands sur la place. Je me souviendrai toujours des déclarations il y a 2 ans d'Uber venant à Paris en disant au sommet à l'Élysée pour dire « je veux être l'Amazon de la mobilité ». Il y a de quoi avoir un peu peur. Et puis, la transition, bien sûr, écologique, c'est énergétique, mais écologique plus globalement, avec des enjeux énormes pour non seulement la pollution de l'air en milieu urbain, mais aussi les enjeux du climat. Donc, c'est tous ces défis auxquels nous cherchons à répondre nous souhaitons être le partenaire de confiance des villes, justement, pour répondre à tous ces défis.
En 2 mots, parce qu'on y reviendra au cours des thèmes que nous aborderons juste après, les nouvelles mobilités mises en place par RATP Group, les innovations que vous envisagez pour une meilleure qualité de ville, est-ce que vous pouvez nous en donner, alors je reprends votre slogan, 2-3 axes comme ça.
Oui, alors sur les nouvelles mobilités, clairement, on agit suivant trois axes. Oui. Compléter notre offre de mobilité pour aider nos voyageurs à faire le dernier kilomètre. Alors, pour cela, on a investi dans des start-up. Alors, je citerai le covoiturage avec Classic, l'autopartage avec Communauto, le scooter électrique avec CityScoot. Mais on a aussi investi dans une start-up qui fait du parking partagé. Tout ça dans l'idée étant de vraiment d'encourager le maximum de personnes de laisser la voiture au garage ou de plus avoir de voiture quand il y a des solutions alternatives. On sait bien que c'est pas possible partout en France, hein, c'est un sujet, mais en milieu urbain dense, quand il y a une belle offre de transport public d'abord et ensuite complétée, c'est bien. Donc investir dans des startups qui complètent notre offre de mobilité. Deux, travailler sur le MaaS, Mobility as a Service. C'est pour ça qu'on a racheté MAPI et qu'on a souhaité offrir aux voyageurs l'outil digital qui permet de faire son package de mobilité en non seulement définissant son trajet directement sur l'appli, mais aussi en allant jusqu'à pouvoir payer et réserver son mode de transport et payer avec un seul ticket sur la même application. Et on a lancé Bonjour il y a quelques jours, l'application Bonjour. Et troisième axe qu'il ne faut pas oublier, c'est la partie physique de cette multimodalité à travers des hubs urbains. Et on a signé un partenariat avec Sogaris, un grand acteur de la logistique en Île-de-France, parce qu'on est convaincu qu'en milieu urbain, il va y avoir une convergence des mobilités des biens et des personnes et qu'il faut réfléchir à des infrastructures physiques, on pourrait appeler des hubs urbains de mobilité, où se feraient ces échanges multimodaux, que ce soit pour les biens et les personnes, et en prenant en compte la transition énergétique, les besoins de recharge. Voilà vraiment nos axes d'innovation majeurs autour des nouvelles mobilités. Et pour les autres sujets d'innovation, on pourrait y revenir aussi, on pourrait parler de mobilité autonome, parce qu'effectivement, si on arrive à la mobilité autonome à plusieurs atouts, y compris en termes de fréquence et tout ça, mais peut aussi permettre de réduire le cours de transport en déportant le conducteur. Au lieu d'être à bord, il peut superviser plusieurs navettes et ça peut permettre de compléter, parce qu'on ne pourra pas faire de la mobilité autonome partout, mais ça peut permettre aussi de compléter l'offre, là encore avec des navettes autonomes. Donc on travaille sur tout ça, sans parler de la mobilité autonome aérienne, avec les UAM, les eVTOL, et puis aussi, nous, dans l'innovation, je terminerai là-dessus, on s'intéresse à tout ce qui a un lien avec l'énergie, notamment, pour récupération de chaleur dans le métro, par exemple, enfin, tout ce qui peut faire qu'on peut agir pour protéger notre planète en réduisant les consommations d'énergie. Voilà, mais je pourrais aussi parler
toujours avec
circulaire, mais on y reviendra.
Mais vous pourrez juste après, mais c'est toujours avec cette problématique de concilier les enjeux économiques, sociaux et environnementaux auxquels nous faisons tous face. Quatrième intervenant de cette matinale des ponts, Nicolas Fontaine. Bonjour, attention, votre micro est coupé. Vous êtes le directeur général adjoint en charge des mobilités pour la région Grand Est. Bonjour.
Je vous ai pas. Bonjour. Voilà.
Et merci de nous rejoindre. On va avoir une vision d'acteurs publics, d'acteurs territoriaux sur la mobilité avec vous et sur notamment les enjeux que les mobilités, non pas la mobilité, constituent pour les métropoles. Je vous laisse justement nous dire quels sont ces enjeux que vous percevez du point de vue des organisations territoriales, publiques, dans les grandes métropoles, qu'elles soient régionales ou simplement à la tête d'une ville.
Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien parce que je suis au bureau et la qualité de la liaison est beaucoup moins bonne que chez moi. C'est le plaisir du retour au travail. Merci, j'ai eu quelques problèmes ce matin. Oui, juste pour terminer ma présentation, je suis effectivement actuellement DGA Mobilité de la région Grand Est, mais j'étais aussi pendant 6 ans DGA Mobilité de Bordeaux Métropole. Donc, c'est à ce titre que je peux donner ma vision des déplacements dans les métropoles. Alors, comme le temps est court…
Une longue expertise sur des enjeux…
Comme vous m'avez laissé quelques minutes là pour cette introduction, je vais retenir seulement un élément, mais pour moi, il est crucial, des enjeux des mobilités pour les collectivités aujourd'hui. Et ça tombe bien parce que je pense que que ce soit du côté des métropoles ou du côté des régions, l'enjeu principal est le même. Et cet enjeu, ce n'est pas pour moi d'abord la digitalisation ou les mobilités numériques, c'est un vrai enjeu, mais ce n'est pas le principal. Le principal enjeu des collectivités aujourd'hui, c'est le patrimoine et la gestion des investissements. Pourquoi ? Parce que depuis 30 ans, les transports en commun se sont énormément développés. Depuis les années 80, on a eu une explosion des réseaux urbains en France et en particulier du tramway. Bordeaux, c'est aujourd'hui 77 km de tramway depuis 2003. Ça sera bientôt plus de 80 km de tramway. Et la région Grand Est, c'est plusieurs centaines de trains qui parcourent l'ensemble de notre territoire. Et ces investissements qui ont été réalisés à peu près au même moment, eh bien, comme tout investissement, ils arrivent à un moment, ils arrivent en fin de vie. La durée de vie d'un tramway, c'est une quarantaine d'années, hein, que ce soit aussi bien pour les rails que pour le matériel roulant. Et au bout d'une quarantaine d'années, eh bien, il faut le renouveler. Et les patrimoines qui ont été engagés à des époques où les finances publiques étaient dans un bien meilleur état qu'aujourd'hui, étant très élevés, et bien évidemment, les sommes qu'il va falloir réinvestir pour renouveler ce patrimoine vont être aussi très élevées. Donc, si on prend l'enjeu de Bordeaux Métropole, ces 77 km de tramway actuels, ça représente plus de 2,5 milliards d'investissements. Et on considère qu'au bout d'une trentaine d'années, il faut pour 1 euro initialement investi, 50 centimes à réinvestir pour renouveler à la fois donc, les rails et le matériel roulant. Ça veut dire qu'aux horizons de 2030, il va falloir budgéter de l'ordre d'1,2 milliard, 1,3 milliard, simplement pour continuer à avoir le même réseau de tramway qu'aujourd'hui. Et entre-temps, évidemment, les réseaux auront continué à s'étendre. Et on risque de se retrouver avec des situations très difficiles pour mettre en place des plans d'investissement sur le long terme. Du coup, pour moi, et c'est le deuxième point, la conséquence en est que le rôle des collectivités aujourd'hui, c'est avant tout de bien sélectionner ces investissements et de s'intéresser non pas au volume global des investissements, mais à leur efficience. Et de mon expérience aujourd'hui, il y a encore trop de projets d'infrastructures de transport en France qui sont lancés sur des bases trop faibles, c'est-à-dire avec des valeurs actualisées nettes très faibles, des taux de retour sur investissement eux aussi trop faibles, alors que bien souvent, quand on s'intéresse à des projets parfois plus petits, on a des taux de retour sur investissement beaucoup plus forts. Je vous donne juste deux exemples sur Bordeaux. Alors évidemment,
c'est ce que j'allais vous demander justement.
Ça a remplacé. Attention à cet exemple. Évidemment, je ne dis pas qu'il faut remplacer toutes les grandes infrastructures par des petits projets, mais je vous donne juste un exemple parce qu'il est frappant. Moi, j'ai travaillé sur des projets de tramway dont la valeur actualisée nette était négative et assez lourdement négative. Je ne donnerai pas de chiffres, mais plusieurs dizaines de millions d'euros. Voilà. Avec des investissements totaux qui représentaient 150-200 millions d'euros. Et par ailleurs, on a pu faire des calculs de valeur actualisée nette, parfois sur des transformations giratoires, des opérations qui pouvaient faire entre 50 000 et 1 million d'euros. Et on pouvait trouver, pour un investissement qui faisait quelques dizaines de milliers d'euros, des valeurs actualisées nettes de l'ordre de quasiment 1 million d'euros. C'est-à-dire qu'en faisant des tout petits investissements ciblés, mais très intelligemment pensés, vous avez des impacts mobilité et des retours sur investissement pour la collectivité qui sont 40, 50, 60 fois supérieurs aux investissements que vous avez réalisés. Et je pense que c'est extrêmement important dans les années à venir d'avoir une approche qui soit vraiment objectivée sur les investissements pour beaucoup mieux sélectionner ce qui va être fait, parce que de toute façon, la situation budgétaire des collectivités, la nécessité de renouveler des patrimoines qui sont déjà extrêmement forts, vont causer de grandes difficultés. Voilà.
Très bien. En tout cas, merci parce que vous nous avez permis immédiatement de nous plonger dans cette première partie de nos échanges avec vous quatre, puisque Pour parler des mobilités, on s'était dit qu'on allait se pencher sur des évolutions de la mobilité, enfin des mobilités depuis le début des années 80 jusqu'à 2019 et faire une photographie, un état des lieux pour voir ensuite quelle transformation après la crise sanitaire pourrait être envisagée. Et on va se lancer tout de suite dans cette première partie et je vais peut-être... alors j'imagine que ça se... que je suis en train de mettre la... à jour la thématique dans mon dos. Quelle mutation des années 80 à 2019? On a un système qui a profondément évolué. Est-ce que Fabien Laurent est avec nous? Est-ce que vous pouvez revenir sur ces évolutions justement que l'on a constatées en termes de mobilité depuis les années 80 jusqu'à 2019? Nous faire un rappel chronologique.
Je me contenterai de brosser quelques grands traits. Si on se reporte en arrière, 1980, on est en plein développement du réseau autoroutier en France, tandis que le grand essor du réseau des lignes à grande vitesse, ce sera plutôt la décennie 1990. Alors quand est-ce qu'il faudrait marquer le renouveau du tramway dès la fin des années 80 et puis ensuite dans les années 90 et puis encore à présent? Chaque génération, je dirais, livre ses combats par rapport à des défis qui lui sont propres. Donc, un grand défi qui a été le nôtre, ça a été celui de l'équipement du territoire en grandes infrastructures. Et ça s'est vu donc au plan national, c'est peut-être ce qui reste le plus dans les mémoires, mais aussi au plan des métropoles. On parle maintenant de plus en plus de RER métropolitain pour les métropoles de province, mais l'interconnexion entre les grandes lignes de RER qu'on connaît bien à Châtelet-Léal en Île-de-France, bien sûr, cette interconnexion, ça date de la fin des années 1970, en fait. Donc, je dirais, problématique d'équipement qu'on a connue du côté des pouvoirs publics, surtout sous l'angle des grandes infrastructures. Mais pour la population, ça a été aussi, la grande affaire a été de s'équiper d'automobiles, il faut bien le dire. Ensuite est venue la problématique de la qualité de l'air, qui a monté au cours des années 1990, avec l'illusion de l'époque qu'il suffirait d'une nouvelle norme européenne sur les émissions des voitures pour régler le problème. Nous voyons bien aujourd'hui, 20 ans après, qu'il n'en a rien été. Il faut continuer continuer de poser des exigences normatives toujours plus fortes si on veut résoudre ces problèmes de qualité de l'air dans les centres des grandes agglomérations les plus exposées. Et puis donc aujourd'hui, effectivement, cette lutte contre le réchauffement climatique et cette recherche à tout, je ne vais pas dire à tout prix parce qu'il faut raison garder, mais cette recherche forte et systématique de comment réduire nos émissions de carbone. C'est clairement le combat de notre génération. Alors j'en profite quand même pour rebondir un tout petit peu sur ce que disait Nicolas Fontaine. C'est pas si sûr que ça qu'il faille compter 50 centimes d'euros pour remplacer 40 ans plus tard 1 euro d'investissement dans le tramway. En coopération avec le bureau d'études Artelia, on vient de terminer l'an dernier une thèse de doctorat, thèse de Xavier Maurice, justement pour éclairer cette question du renouvellement des tramways. Et en fait, alors la durée de vie n'est pas forcément 40 ans sur l'infrastructure. Les sections courbes, c'est plutôt une quinzaine d'années, attention. Le surcoût de chantier, attention au surcoût de chantier, parce qu'une fois que le tramway a pris toute sa place, il est devenu une artère majeure dans la ville, et couper cette artère va demander des procédés particuliers pour les travaux, et ça va coûter en fin de compte plutôt un peu plus cher que la construction neuve. Donc, attention, on peut l'annoncer dès à présent.
Alors, Fabien Laurent, gardez votre interpellation pour notre troisième partie, puisqu'on dressera les perspectives, et c'est là qu'on confrontera les modèles ou les perspectives qui se dégagent. Si on a bien compris, on est passé un petit peu, mais je vous laisse intervenir, Marie-Claude Dupuis, Nicolas Fontaine, François-Laurent Touzin, sur cette photographie depuis les années 80. On est passé un peu du tout voiture, qui était le modèle de déplacement urbain, périurbain, ultra développé, avec aux transports en commun qui se sont un peu démocratisé, et ensuite une prise de conscience environnementale et des mobilités douces qui sont arrivées avec le digital également dans les années 2000-2010. C'est ça qu'on peut dire, c'est ça l'évolution des mobilités depuis quelques années. C'est juste pour avoir une photographie ensemble de ce qui s'est passé.
Oui, tout à fait. Enfin, je suis d'accord avec votre résumé. D'ailleurs, si on prend les grandes, il y a aussi des dates importantes en matière de gouvernance de la mobilité urbaine, hein, avec notamment la loi ORTF, hein, sur l'organisation et la régulation des transports ferroviaires, hein, qui date de 2009, et c'est elle qui a enclenché le processus de mise en concurrence des réseaux historiques en Île-de-France. Le STIF, l'autorité organisatrice en charge des transports, a été créée en 2000 et c'est en 2006 que l'État abandonne la responsabilité en termes de mobilité à la région, hein, avec une gouvernance avec toutes les collectivités locales et un système de financement et de gouvernance de la mobilité en Île-de-France. Et j'ai envie de dire, la dernière loi importante sur la mobilité, c'est la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités adoptée fin décembre 2019, qui a vraiment complété d'ailleurs le cadre de l'ouverture à la concurrence du réseau historique en précisant le cadre social de cette compétition, en donnant encore un coup d'accélérateur à tout ce qui est la transition numérique, avec une ouverture des données de la mobilité, la possibilité de développer le MaaS en ouvrant la biotique à l'accès à la biotique, y compris à tous les acteurs privés, et puis le développement des mobilités actives et propres et tout ce qui est renforcement de la sécurité. C'est des lois très importantes et qui accompagnent en fait le mouvement, parce que moi je l'ai vécu quand j'ai pris mes fonctions à la stratégie et au développement en 2017. C'est là, on était encore, vous savez, dans le Vélib. Moi ça m'a marqué parce que c'était encore les modèles de véhicules partagés, de mobilité partagée, c'était très DSP, délégation de services publics autour d'Autolib et du Vélib. Et puis on a vu arriver, il y a eu un renouvellement d'ailleurs de l'appel d'offres à la ville de Paris, et on a vu arriver après les vélos en free floating, les scooters et les trottinettes, et les villes se sont trouvées envahies. Et de nouveau, il y a un besoin énorme de régulation de ces objets-là. Hein, avec, bon, on a commencé, il y a une régulation qui commence à venir avec l'entrée dans le code de la route des engins de partagés, de déplacements partagés, enfin bref, et puis des villes qui commencent à limiter le nombre d'opérateurs de nouvelles mobilités. Donc je trouve que c'est intéressant de voir comment le cadre législatif et réglementaire accompagne les évolutions de besoins de mobilité aussi à travers l'histoire.
Nicolas Fontaine, je pense que vous allez, je vous vois abonder.
Oui. Alors, pour moi, l'élément fondamental, quand même, parmi ceux que vous avez cités de l'évolution des mobilités depuis 30 ans, c'est d'abord le recul de l'usage de la voiture, et on peut peut-être donner quelques chiffres. Si on prend l'exemple de Bordeaux, qui est sûrement une ville qui est un peu en retard par rapport à d'autres, parce qu'elle est restée longtemps très automobile et elle est encore plus que d'autres métropoles, la part d'utilisation de l'automobile a monté jusqu'à la fin des années 90 et en 1999, elle était de 64% des déplacements, la part modale. Deux tiers quasiment des déplacements se faisaient en voiture et en 2017, cette part était tombée à 49 et quelques pourcents, quelques virgules qui permettaient d'annoncer fièrement qu'il y avait moins d'un déplacement sur deux en voiture. Donc c'est quand même l'élément fondamental qui marque ces 30 dernières années. Et évidemment, ces déplacements, ils ont été remplacés par des déplacements en transport en commun, des déplacements en vélo. Et je crois qu'on peut, tous s'accorder qu'avant le Covid, les taux de croissance à la fois pour les transports en commun et pour le vélo étaient très forts. Pour les transports en commun sur Bordeaux, ils étaient de l'ordre de 5% par an. Avec des meilleures années et des plus basses années, mais autour de 5% par an. Et sur le vélo, on était, et on est toujours d'ailleurs, puisque finalement ce phénomène a été renforcé, mais je crois qu'on en parlera après, supérieur à 10%. Donc l'élément important, c'est quand même ce transfert des déplacements automobiles vers des déplacements transports en commun et mode 2.
avec juste une petite précision, monsieur François Ploquin, si vous pouviez désactiver votre caméra, ça serait, je pense, ça serait plus opportun parce qu'en fait, on a une vue sur vous pendant cette matinale. Voilà, merci. Vous parliez des déplacements justement qui ont diminué et en plus ce sont des déplacements qui en termes de distance sont relativement réduits, les déplacements tels qu'on les connaissait en voiture qui est toujours le mode de déplacement majoritaire, on est d'accord?
Oui, oui, tout à fait, puisque sur…
Est-ce que vous donniez des chiffres?
Oui, oui, pareil, je continue à donner des chiffres. Sur une métropole comme Bordeaux, on a à peu près un déplacement sur deux en voiture qui fait moins de 3 km. Et en fait, la part modale de la voiture devient majoritaire dès qu'on dépasse 1 km. Donc, il y a un gain énorme de part modale sur des déplacements qui font entre 1 km et 3 km, où là, évidemment, les modes doux et les transports en commun sont des candidats très très bien placés pour remplacer la voiture. Et maintenant, avec aussi le développement du vélo électrique, cette distance de 3 km, elle a tendance plutôt à augmenter. Et on peut imaginer remplacer beaucoup plus fortement la voiture sur des déplacements plus longs, allant jusqu'à une dizaine de kilomètres. Un dernier chiffre, à Copenhague. À Copenhague se distingue par évidemment par un réseau cyclable très très dense avec de très très bonnes infrastructures et la distance moyenne des déplacements sur ce qu'ils appellent les autoroutes du vélo est de l'ordre d'une dizaine de kilomètres et est supérieure à la distance moyenne de déplacement sur certains axes en métro. Donc vous voyez que on peut trouver aussi faire du report modal sur des modes doux sur des distances qui sont tout à fait significatives.
François Laurent Touzin, cette vision en fait des mobilités urbaines et périurbaines, elle s'est construite au fur et à mesure. Il y a eu une agrégation finalement des moyens. On a développé des nouvelles solutions avec une densité qui devenait de plus en plus importante. Quelle est votre oui, alors, vision sur ces 30 dernières années?
Alors.
Jusqu'à 2019.
Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la manière dont les choses se sont structurées, des dynamiques sociales et économiques qui ont façonné notamment certains pôles, certaines métropoles. Peut-être simplement du point, enfin en tant que président du département VET, je voulais dire un mot de la manière dont envisager cette évolution dans le cadre de la formation et c'est quelque chose de très important puisque bon il s'agit de former des ingénieurs à conduire des évolutions futures mais cette conduite elle est basée d'abord sur l'analyse des évolutions passées. Donc analyse scientifique, technique, historique, et donc avec à chaque fois des ordres de grandeur ou des points particulièrement précis. Et cette analyse débouche sur la capacité à s'approprier finalement une sorte de théorie de l'évolution de la mobilité. Et quand on croise finalement cette théorie de l'évolution avec la compréhension de ce qui se passe aujourd'hui, et bien finalement on est capable de déterminer des trajectoires pour demain. Et là, je rebondis sur ce que disait Nicolas Fontaine tout à l'heure, hein, c'est la prise en compte de l'existant comme déterminant fondamental des trajectoires et des contraintes aussi, qui à la fois sont des opportunités, mais aussi sont des obligations de maintenance. Voilà. Et le tout avec une approche donc, qui est historique, mais je le répète, hein, c'est très important, et là c'est quelque chose qu'on souhaite souligner dans le cadre de la réforme, hein, c'est une approche quantitative qui permet vraiment d'être en prise avec la réalité, la réalité de la conception et la réalité de la gestion également.
Je rebondis sur ce que vous disiez, sur effectivement ces prises de décision successives, sur ce qui a orienté les moyens de se déplacer en zone urbaine et périurbaine. La modélisation, Fabien Laurent, c'est un outil d'aide à la décision des politiques de transport sur les dernières années, selon vous?
Pas que selon moi. Hein. Oui, clairement, donc, des études d'ingénieurs, en fin de compte, des études de clientèle, de trafic, dans lesquelles, en fait, on simule, qu'est-ce qu'on simule ? On simule que dans le territoire est implantée une certaine offre de transport, qu'elle existe ou sous forme de scénario, et que face à cette offre, il y a la demande de mobilité, donc les personnes comme vous et moi, le fret, etc. Et donc on simule comment est-ce que la demande de mobilité pourra s'emparer de l'offre, comment est-ce qu'elle pourra l'utiliser, pourquoi est-ce qu'elle utilisera tel mode de transport plutôt que tel autre, et par conséquent, quels seront les trafics et quels seront les impacts économiques, sociaux, environnementaux. Donc la modélisation comme outil d'aide de la planification et parfois aussi de la gestion en temps réel, clairement a pris une place qui est sans doute incontournable aujourd'hui. Et pour moi, la question finalement n'est pas tant d'utiliser la modélisation, je crois que c'est devenu extrêmement évident, mais c'est plutôt de ne pas être prisonnier de ces modèles, de ces modèles qui sont forcément calibrés sur une certaine situation du système. Et donc attention au fait que le système est en train d'évoluer, parfois avec des dynamiques rapides, en particulier l'émergence de nouveaux services. Donc il faut effectivement, si on veut planifier de manière lucide par rapport à ça, il faut faire attention à bien spécifier les hypothèses de nos modèles, sans hésiter à être prospectif, de manière à laisser ses chances à l'avenir, si je peux dire.
Cette modélisation que vous développez, est-ce que c'est une source d'inspiration pour, par exemple, les lois qui sont développées? Alors là, j'interpelle Marie-Claude Dupuy, Nicolas Fontaine, la loi d'orientation des mobilités dont vous parliez tout à l'heure, qui est parue en 2019. L'idée de cette loi, c'est de propulser les nouvelles mobilités, c'est de supprimer la dépendance à l'automobile, c'est de réussir la transition écologique, c'est d'assurer le bon fonctionnement du secteur des transports et c'est investir dans les infrastructures de transport. Hein. Voilà, c'est ça les grands axes de cette loi. Est-ce que les modèles qui sont développés, par exemple ici à l'École des Ponts, sont des sources d'inspiration pour les opérateurs, pour les acteurs publics lorsqu'on prend des grandes orientations comme ça?
Oui, je peux peut-être commencer si vous voulez bien.
Oui, allez-y.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Monsieur Laurent. Et effectivement, dans une métropole, la modélisation, les études, c'est des choses qu'on utilise quasiment quotidiennement sur tous les projets. C'est fondamental. D'abord, c'est souvent une obligation réglementaire, puisque quand vous faites un projet de grande infrastructure de transport, vous avez plusieurs étapes administratives à passer, vous avez une enquête publique à préparer, vous avez un bilan socio-économique à réaliser. En amont de ça, vous avez une concertation à faire où il faut pouvoir proposer au public plusieurs scénarios. Et l'essentiel du choix, il se fait sur des modélisations et qui sont basées sur des modèles. Et aujourd'hui, il y a très, très peu de métropoles qui n'ont pas acquis un modèle complet qui alimente leur réflexion. Et c'est aussi pour ça que les enquêtes ménage-déplacement qui sont réalisées par les services de l'État sont très importantes, parce que c'est bien beau d'avoir un modèle, mais il faut l'alimenter avec des données précises. Et je souscris aussi à ce que me dit M. Laurent, c'est que, évidemment, il faut aussi prendre ces modèles avec précaution. Et il ne faut pas oublier que les mobilités changent. Ne cesse d'évoluer. On parlait tout à l'heure des trottinettes. Évidemment, en 2015, on ne pouvait pas intégrer les trottinettes dans les modèles. Elles sont arrivées en quelques mois, elles nous ont submergées. Maintenant, il faut les prendre en compte pour la part de trafic qui leur revient. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que quand on construit une infrastructure, elle crée elle-même sa propre demande et qu'elle rend faux le modèle qui a permis de l'évaluer. Donc ça, c'est extrêmement important et ça fait partie de notre travail de tous les jours.
C'est intéressant, vous dites que les mobilités sont en perpétuel mouvement. Donc je surfe un peu sur vos propos en faisant des jeux de mots. Marie-Claude Dupuy.
Oui, je ne peux que soutenir tous les travaux qui sont faits pour développer les modèles prédictifs, des besoins de mobilité et à deux niveaux. C'est vraiment, on a des besoins au niveau macro, à l'échelle d'un territoire, pour pouvoir analaser les flux et faire des enquêtes pour mieux définir les besoins, mais aussi à l'échelle micro. Et c'est tout l'enjeu qu'on a vu arriver à l'échelle d'un quartier pour bien dimensionner justement ces infrastructures plus locales qui vont permettre la multimodalité. Et il faut trouver le bon équilibre entre les enquêtes historiques, hein, enfin, il y a à la fois les enquêtes du CEREMA, hein, enfin, ou du ministère sur les habitudes de mobilité, mais il fallait presque, j'exagère, hein, mais à peine, mais il fallait peut-être 10 ans pour avoir le résultat après avoir fait l'enquête. C'est très très long, très lourd, et on voit apparaître des nouveaux outils de traitement des données qui peuvent avoir des choses beaucoup plus rapidement. Donc, et on voit beaucoup d'innovations aussi dans ces sujets-là. Nous, on a investi dans une start-up qui s'appelle Vianova, qui fait de l'analyse de données, alors à la fois celles qui sont en open data, mais aussi celles qu'elle récupère auprès des opérateurs de nouvelles mobilités. Et elle sert d'intermédiaire avec les villes pour les aider à réguler justement ces mobilités, nouvelles mobilités urbaines. C'est-à-dire, par exemple, si une ville décide de réguler l'accès sur un quartier de telle ou telle mobilité, eh ben on peut faire, on a cette Vianova peut jouer le rôle de médiateur, d'intermédiaire pour aider la ville à réguler. Mais on a aussi besoin vraiment de gros modèles aussi pour prédire et mieux dimensionner les besoins. Voilà.
Alors, vous ne croyez
pas
si bien dire,
puisque il y a beaucoup d'innovations là-dessus.
Les principes, la précédente enquête mobilité des personnes menée par l'INSEE, c'était en 2008. Et la dernière, c'était 2018-2019, je crois, la publication. On a, dans cet intervalle de temps, d'ailleurs, pour avoir une bonne photographie, des temps de transport qui évoluent partout. Le temps consacré au transport augmente partout. C'est 10% par exemple du temps en plus passé en plus dans les déplacements quotidiens pour les Français. On a cette photographie avant 2019, donc d'une mobilité qui évolue, où on essaie de donner un peu plus de place aux transports en commun, aux mobilités douces. Vous parliez des trottinettes, des vélos, et puis 2019 arrive. 2019, on le connaît, on est en train de basculer sur la deuxième partie de nos échanges. 2019, c'est, on le sait tous, cette crise sanitaire sans précédent qu'on a traversée. On va se demander quel impact cette crise va laisser sur les mobilités qui étaient là, qui étaient disponibles pour chacun d'entre nous en milieu urbain et périurbain. Et surtout, est-ce que ça va laisser des traces? Quels sont les constats que vous faites les uns et les autres sur cette crise sanitaire et la façon dont les gens ont réagi? Peut-être, vous levez la main, je donne la parole à... Ah, alors, Marie-Claude Dupuis.
Je veux bien, parce que commencer la première, puisqu'on l'a vécu de plein fouet. Enfin, en mars dernier, en mars 2019, notre fréquentation est tombée à 5%. 5% de fréquentation. Alors, on a maintenu une offre de transport à 30%. Et au final, pour l'année 2019, c'est moins 43% de fréquentation en moyenne à l'année par rapport à 2019. Enfin, en 2020 par rapport à 2019.
2020 par rapport à 2019.
Oui. Voilà, pardon. On a eu moins 43% de fréquentation. Donc, bien sûr que ça interroge le modèle économique. Heureusement, je tiens à le souligner, on a un contrat avec notre AO et ça a été le cas dans toutes les AO de France, et je peux même dire au niveau international, les autorités organisatrices qui financent le transport ont soutenu leurs opérateurs, hein, en partageant ce déficit. Et en Île-de-France, c'était 900 millions d'euros de pertes de recettes voyageurs qui ont été compensées à 750 millions par IDFM, et toutes les autorités ont fait ça. Et en plus, non seulement il y a eu une perte de recettes voyageurs faute de fréquentation, mais aussi une perte le fameux VM, versement mobilité, qui sont versés par les entreprises. Mais comme il y avait du chômage partiel, il y avait une réduction. Donc c'est dramatique pour le modèle économique du transport public, puisque lui-même était déjà assez fragile, puisque en France, la moyenne le voyageur ne paye que 30%. Grosso modo, et c'est encore moins en Île-de-France, mais 30% du coût du transport est supporté par le voyageur, le reste, c'est les collectivités locales, les entreprises, etc. Donc aujourd'hui, les entreprises et les AO d'ailleurs sont très fragilisées, le modèle est fragilisé. Donc à travers la profession d'ailleurs, l'Union des transports publics que je vice-préside, on a lancé un appel pour repenser le modèle économique du transport public. Et pour prendre en compte essayer de définir un new normal, c'est pas évident. Parce qu'on sait, on a vu des modifications de comportement très importantes pendant la crise Covid et certains vont perdurer, hein, télétravail, e-commerce. Voilà. Et puis, il y a des choses qui sont sans doute plus structurelles, comme la baisse du tourisme, notamment pour une région comme Île-de-France. Et alors, on essaie tous d'apprécier et l'arrivée des nouvelles mobilités comme le vélo qui se sont renforcées. Mais tout ça, il faut qu'on arrive à trouver ce nouvel équilibre. Le développement du télétravail permet de désaturer les heures de pointe et peut-être de réajuster les investissements. Donc, il y a tout ça qu'il faut arriver à prédire. Mais dans tous les cas, on aura un problème de modèle économique. Et c'est pour ça que nous avons mis aussi sur la table le sujet de la valorisation des externalités, les externalités positives du transport public, mais aussi les externalités négatives de l'usage individuel du voiture particulier. Et il faut vraiment, là aussi, je pense qu'il peut y avoir des travaux avec les économistes et tout ça pour repenser ça. Et quand j'entends parler de valeur nette actualisée ou de ROI, moi je plaide vraiment pour qu'on prenne en compte, enfin que, mais ça c'est aussi une préoccupation quotidienne dans mon entreprise, quand on fait des ROI de projets, d'infrastructures ou d'invest quel qu'il soit, de toujours essayer de prendre en compte non seulement la performance financière, mais extra-financière. C'est fondamental, sinon on peut faire des erreurs de raisonnement.
On a bien compris qu'il y a eu un déport des mobilités habituelles qui étaient la voiture ou les transports en commun vers d'autres formes de mobilité. On a des gens qui soit ne se déplacent pas, soit ont décidé d'utiliser d'autres moyens de transport parce qu'ils ont réfléchi à l'impact environnemental, parce que la peur du virus peut-être dans les transports en commun, des choses comme ça. Nicolas Fontaine, je vous voyais réagir également, et après on donnera la parole aux autres acteurs.
Oui, alors les conséquences de la crise sanitaire, elles sont quand même assez difficiles à analyser sur le long terme, et je ne suis probablement pas le meilleur pour en parler. En fait, il y a deux types de conséquences. Il y a celles qui accélère des phénomènes qui étaient déjà existants, notamment le vélo. Et puis, il y a des choses, on peut aussi parler du télétravail, hein, qui, comme l'a dit Madame Dupuis, peut être quelque chose de tout à fait positif, puisqu'il peut nous permettre de réduire l'écart entre les heures de pointe et les heures creuses, et donc d'avoir moins d'investissements initiaux dans le matériel roulant, moins de personnel, et d'avoir une meilleure efficience de ces deux postes qui sont les plus lourds quand on fait fonctionner un réseau de transport en commun. Puis après, il y a des choses aussi qui sont complètement à rebrousse-poil, pardonnez-moi l'expression. Il y a évidemment un certain retour à la voiture dont il est difficile de savoir s'il va durer ou non. On peut quand même penser que la congestion, de toute façon, sera aussi difficile à accepter pour les citoyens demain qu'elle l'était hier, et que donc ça ne sera que provisoire. Moi, par rapport à ce que m'a dit Madame Dupuis, je voudrais dire et rebondir sur ce que j'ai dit tout en introduction et du coup les éléments complémentaires qui ont été apportés par Monsieur Laurent. Quand Madame Dupuis dit on va avoir un problème économique, je crois que de toute façon on allait avoir un problème économique avec ce renouvellement des infrastructures. Donc c'est effectivement important de bâtir un nouveau modèle économique. On aurait dû le faire de toute façon. C'est d'autant plus urgent que la crise est venue très fortement faire trembler le modèle.
Donc la crise a été un révélateur de tendances qui se dessinaient. François-Laurent Touzem.
Oui, alors moi je partage ce qui a été dit. Je rajouterais peut-être que finalement on s'interroge sur l'impact de la crise sanitaire. Il me semble qu'il sera en partie cet impact ce qu'on décide qu'il sera. C'est-à-dire que on prend les exemples du vélo, des pistes provisoires. Si on décide de les pérénisées,
sont-elles vraiment provisoires?
On décide de les supprimer. Et donc on a quand même pas mal de marge de manœuvre et des gros chantiers de décision. Hein. On est à des carrefours décisionnels assez importants. Et comme disait d'ailleurs Nicolas Fontaine, hein, sur des objets qui finalement en investissement sont relativement sobres, mais qui peuvent avoir un impact très fort. Et alors pour répondre aussi à la question que vous posiez sur l'interférence en fait entre modélisation ou le dialogue entre modélisation et acteurs de la modélisation et acteurs de la décision stratégique, moi je voulais souligner aussi qu'on est dans une période assez singulière du rapport entre action, on va dire, publique nationale, action publique locale et action privée, avec une comme on est dans une période d'incertitude, une prospective un peu généralisée, eh bien, il y a des vraies fenêtres et des vraies opportunités qui sont données au travers d'appels à projets, parfois des appels à projets permanents ou des plateformes d'appels à projets, comme French Mobility, par exemple, et qui sont une vraie opportunité pour des acteurs qui sont motivés, justement, de s'exprimer de manière rationnelle au travers de modèles, et de modèles, comme disait Fabien Laurent, créatif, qui finalement propose ou ose des hypothèses. Et donc là, il y a une vraie opportunité pour pas seulement finalement subir un cadre qui aurait été, qui serait peut-être obsolète ou inadapté à certains égards, mais aussi en proposer d'autres.
Fabien, Laurent, c'est l'émergence du télétravail dont on parlait juste avant. Selon vous, c'est du temps gagné pour des nouveaux déplacements du point de vue de la recherche?
Vraiment pas sûr.
Hein. Pas sûr.
Les impacts sont complexes. Ça dépendra vraiment de quelles sont les conditions résidentielles effectivement de la personne. Est-ce que c'est possible de travailler à son domicile ou est-ce qu'on se déportera vers un tiers lieu qui se prêterait mieux? J'ai des exemples concrets de difficultés. Je pense à une jeune doctorante là, dont le télétravail a été tellement perturbé par les bruits de voisinage qu'elle a dû déménager. Bref, ça va être une série de situations individuelles, délicates, pas évidentes. Moi, pour un commentaire sur cette pandémie, effectivement, et sur son effet, ce serait peut-être de discerner les ordres de grandeur de combien de personnes ont été concernées à tel égard. Donc, on déplore pour la France de l'ordre de 100 000 décès, peut-être 1 million de personnes qui auront été exposées lourdement et se seront fait soigner. Si je devais compter les atteintes psychologiques, ensuite, ce serait peut-être plutôt du côté de la dizaine de millions. Et on a vu ça en particulier avec nos jeunes élèves ingénieurs, hein, malgré tous nos soins. Et en revanche, là, la contrainte sociale pour réaménager chacun sa mobilité de manière extrêmement forte pendant plusieurs mois, et ensuite en dosant à des niveaux divers là, ces paliers de déconfinement, ça, c'est ça le plus massif en vrai. Donc, c'est avant tout, fondamentalement, une crise qui affecte nos mobilités parce que la société ne nous a plus permis de nous déplacer comme d'habitude aussi librement qu'on en avait pris l'habitude. On s'est contraint collectivement et je dirais la population a très très largement joué le jeu de ça, bien sûr, heureusement. Heureusement, et donc l'un dans l'autre, effectivement, c'est une remise en cause très forte de nos pratiques qui dégage des fenêtres d'opportunité. Certaines sont déjà font l'objet d'actions publiques déjà cristallisées sur le terrain. D'autres, c'est vraiment au niveau individuel, à chacun de rejouer sa mobilité avec des formes plus flexibles, sans doute.
Merci, parce que vous me tendez la main pour introduire le troisième axe de nos échanges. Quels enjeux et quelles caractéristiques pour les mobilités de demain et d'après-demain? Vous venez tous de l'effleurer, parce qu'en fait, cette crise, elle a été le révélateur de tendances. Hein. On s'inscrit dans une démarche à la fois pratico-pratique, mais aussi on était obligé d'être un petit peu visionnaire. On sait que d'ici 2050, les deux tiers de l'humanité vivront en ville. Donc ça, c'est un chiffre qui nous interroge. Aujourd'hui, organiser nos mobilités de façon concrète, c'est important, mais c'est aussi dans un cadre, on le disait tout à l'heure, environnemental et sociétal grave ou important à venir. Quel système de transport, quels exemples à suivre, quels exemples à créer? Nicolas Fontaine, je sais que vous, en préparant ce débat, vous me parliez des exemples suisses, de l'exemple aussi du nord de l'Europe.
Oui, tout à fait. Pour moi,
qu'est-ce qui peut nous inspirer aujourd'hui, dans la façon de repenser nos mobilités?
Tout à fait. Je pense, pour moi, il y a les mobilités. Il y a pas une solution unique, évidemment. Et demain, les bons mix mobilité, ça sera à la fois en milieu urbain dense où les déplacements sont très courts, des solutions très très simples avec un minimum d'investissement et un minimum d'émissions carbone, donc beaucoup de mobilité douce, beaucoup de vélos, beaucoup de marche à pied. Et là, évidemment, les exemples qu'on peut citer, c'est Amsterdam, c'est Copenhague. Et ce sont des villes, en fait, quand on regarde quel est leur niveau de congestion, on s'aperçoit que plus le vélo est développé, plus les modes doux sont développés, moins il y a de bouchons dans ces métropoles. Et Amsterdam et Copenhague sont vraiment des villes qui obtiennent des excellents résultats en la matière. Et c'est après c'est assez logique. Ça veut dire que s'il y a beaucoup de vélos, beaucoup de marche à pied, c'est que les déplacements dont on parlait tout à l'heure, entre 1 et 5 km, ne sont pas faits en voiture. Donc, c'est ces déplacements-là qui causent beaucoup de congestion. Et puis après, l'autre modèle pour moi et l'autre priorité, c'est aussi d'investir sur des déplacements lourds, mais là, sur des longues distances. Et là, donc, je reprends plutôt ma casquette région, parce que, évidemment, sur les longues distances, ni le vélo, ni le tramway, ni le métro, quand on est à 40 ou 50 km, ne peuvent venir concurrencer la voiture. Et il y a la nécessité de développer les infrastructures ferroviaires. Et là, évidemment, l'exemple qu'on peut citer, et malheureusement, ça va faire beaucoup de mal, encore une fois, après la séance d'hier soir, mais c'est la Suisse. Et les Suisses sont vraiment les meilleurs du monde dans le ferroviaire, et pas seulement sur les... ils sont très bons sur les pénalties, mais aussi sur le ferroviaire. Et ils ont réussi, en une vingtaine d'années, à mettre en place un système de financement des infrastructures. On parlait tout à l'heure de modèle économique, qui leur permet aujourd'hui d'avoir un réseau extrêmement performant, un réseau qui fonctionne à l'hydroélectricité pour 95% et donc qui a des taux d'émission très faibles. Voilà, ils ont su s'en donner les moyens et moi j'espère très sincèrement, et c'est une des ambitions de la région Grand Est, de participer à ce mouvement, que la France sera aussi mener cette réflexion et prendre les mesures qui s'imposeront dans les années à venir sur ce sujet.
C'est ce développement de l'approche multimodale que vous évoquez tous depuis tout à l'heure, Marie-Claude Dupuis, je sais que c'est un axe fort aujourd'hui pour vous. On parle des plateformes masse.
C'est pour ça qu'on a voulu d'ailleurs soutenir la création de cette chaire à l'École nationale des ponts et chaussées. Sophie Mougard en a parlé. Quelle régulation pour la ville de demain, dont le premier projet sera autour du masse. Parce que le MAS, il faut l'appréhender d'abord comme un outil au service des voyageurs, bien sûr, pour faciliter leur quotidien. C'est un outil au service des AO pour soutenir la multimodalité et le report modal. Mais c'est aussi un outil au service des villes. Et c'est là où je voudrais insister sur le fait que... Parce que le MAS, c'est des algorithmes qui vont classer et qui vont proposer aux voyageurs un mix de mobilité suivant des critères de choix.
Alors, souvent des plateformes, des applications dont le but est de simplifier, fluidifier les trajets des utilisateurs. On a différents exemples, mais pour resituer pour tout le monde, les différentes plateformes MAS ou applications qui existent aujourd'hui peuvent aller jusqu'à nous donner un état des différents modes de trafic et nous permettre d'avoir éventuellement des tarifications uniques. Ça, c'est quand c'est complètement abouti. Voilà.
Tout à fait. Mais après, il y a les critères de choix. Donc, il y a des critères de choix qui sont explicites, donnés par le voyageur. J'ai envie de marcher, je n'ai pas du tout envie de marcher. Voilà. Je suis prêt à prendre un vélo ou pas. Mais il y a aussi les algorithmes qui vont être mis à l'intérieur de l'outil par celui qui vendra le service. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir plusieurs modèles de masse, hein, entre des masses privées avec une logique très commerciale et qui vont proposer des parcours plutôt dans une logique de favoriser des passages devant un partenaire commercial, ou des masses qui vont proposer des mix qui seront écologiquement vertueux parce que ça sera le minimum de recours à des énergies fossiles ou que sais-je, qui répondront à des politiques de territoire pour protéger tel quartier, aller dans tel autre. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il y a beaucoup à faire autour de la gouvernance du MAS encore pour aller dans des logiques au service de l'intérêt général et plus vertueuses.
Donc ça, oui, c'est un des enjeux. Aujourd'hui, on le dit aussi, beaucoup de gens pointent l'accroissement des problématiques liées à la protection des données personnelles via l'utilisation de ces plateformes pour se déplacer ou de ces applications.
C'est ça que l'Europe est un bon terrain pour tout ça parce qu'on a une RGPD, un règlement très protecteur. Et dernier mot, on pousse beaucoup les travaux aussi pour l'avenir. Je reviens sur mon histoire de valoriser les externalités et pour contribuer à rendre le modèle économique du TP plus, du transport public plus robuste, c'est d'aller chercher, de trouver un rééquilibrage via la fiscalité, hein, par exemple, Enfin, nous, on l'a vu quand on prolonge la ligne 14 du métro au nord, le foncier à Saint-Ouen a augmenté de 46% entre 2014 et 2019, alors que dans le reste de l'Île-de-France, c'était 13,7%. On sait que quand on dessert mieux un quartier, le foncier augmente. Donc, pourquoi pas instaurer une redevance dans ces cas-là, plutôt que ça bénéficie uniquement aux promoteurs immobiliers, aux propriétaires, ben, de faire un retour vers les autorités, enfin, vers ceux qui financent la mobilité. Le péage urbain, c'est un sujet qui peut être très sensible socialement, mais qui ne doit pas être tabou. On doit pouvoir mettre en place des péages urbains. L'intérêt du péage urbain, ça ne peut être envisageable que là où il y a vraiment une offre alternative à la voiture, hein, sinon ce n'est pas la peine. Mais c'est que ça aussi, ça peut favoriser le retour modal vers les transports en commun, qui sont plus vertueux écologiquement. Bref. Donc tout ça, on pense qu'il y a matière à réflexion, sans parler de la fiscalité ou du taux de TVA sur les mobilités, mais on pense qu'on peut agir et qu'il y a plusieurs scénarios possibles pour avoir un modèle vertueux.
Fabien Laurent, au niveau de la recherche, l'idée, c'est d'aider les opérateurs, les acteurs publics à... envisager une harmonisation, envisager une synergie entre les différents modes déjà existants, c'est ça les premières perspectives pour demain.
Vraiment pour nous la notion de système est importante, hein, et qui sous-entend une espèce de cohérence entre les composantes du système. Donc, on va voir les différents modes de transport comme autant de composantes qui se peuvent coopérer les unes avec les autres, d'ailleurs, mais qui auront chacune leur domaine de pertinence. Et par exemple, si je devais faire une comparaison rapide entre trottinette électrique et puis voiture, donc déjà pour me réjouir de l'émergence de cette trottinette électrique qui permet d'aller jusqu'à 20 km/h, mais avec seulement 15 kg de métal, y compris la batterie, si je peux dire. Et puis là, il n'y a pas de problème d'infrastructure de recharge électrique. Chacun recharge chez soi sa trottinette, si c'est une trottinette privée. Donc, une sacrée innovation qui est venue il y a très peu et qu'on n'avait pas vu venir, si je peux dire. Face à ça, la voiture, son bilan environnemental, c'est quoi? C'est 100 fois plus lourd, donc en termes de masse, donc 100 fois plus de métal. Et bien après, il faut regarder combien de kilomètres est-ce qu'on peut faire avec l'objet technique en question. Il faut vraiment raisonner cycle de vie. Et donc là, on se rendra quand même vite compte que la trottinette bas de gamme qui ne fait à peine 1000 km, elle ne va pas être compétitive en vrai par rapport à la voiture pour sa phase constructive. Après, en revanche, se posera la question de l'énergie utilisée à l'usage. Et là, je crois qu'on peut être créatif, hein, parce que la récolte d'énergie renouvelable dans les territoires, c'est quand même, il y a quand même plusieurs techniques pour ça, et je crois qu'on peut être ambitieux là-dessus. Ce qui veut dire que, pour moi, pas que pour moi, mais il y a la sobriété énergétique, il faut regarder, mais on va avoir une production d'énergie renouvelable qui va être de plus en plus importante dans les années à venir. Ce qui fait que, vraiment, ce qu'il faut regarder au fond, là, en ce moment, c'est l'impact carbone. L'impact carbone pour voir comment on arrive à sauver la planète, il n'y a pas d'autre mot, et sans forcément attendre l'échéance 2050. Hein, je crois que de plus en plus de gens sont conscients que viser principalement l'horizon 2050, c'est encore une fois laisser à la génération d'après le soin de sauver les meubles. Donc, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour 2030? Qu'est-ce qu'on peut faire, y compris dans nos plans de mobilité urbaine?
Oui, vous êtes très attaché à ça, hein, l'idée d'anticiper et de voir plus loin que, effectivement, uniquement demain, essayer de créer des modèles pérennes. François-Laurent Touzin, comment on peut créer des synergies entre la recherche, l'enseignement, les acteurs de la mobilité, pour justement préparer ensemble l'avenir, demain et après-demain?
Déjà peut-être pour par rapport à la question sur les enjeux caractéristiques de mobilité, moi je proposerais bien une sorte de mix entre ce qui a été dit par Marie-Claude Dupuis et Nicolas Fontaine, finalement, où les grands enjeux, c'est à la fois celui de la compétitivité si on est un acteur privé, ou de la soutenabilité dans le cadre des collectivités, avec notamment cet enjeu, et qui est aujourd'hui travaillé par l'école, hein, d'objectivation des externalités et de captation de valeur ajoutée. Et le deuxième enjeu, c'est la question de saisir des opportunités, qu'elles soient numériques ou comportementales, hein, d'évolution de comportement, mais également de gérer des contraintes, et notamment l'héritage des investissements passés. Et le troisième enjeu, c'est celui de la sobriété. Et la manière de traiter en fait cette question de sobriété à l'école, elle relève de cette combinatoire que je disais tout à l'heure en introduction entre finalement le fait d'éviter finalement de se déplacer. Donc on est sur la démobilité, sur le télétravail. Le deuxième, c'est celui du fait de changer de mode de transport, hein, aller vers quelque chose de plus sobre. Par un autre itinéraire, une autre combinaison. Le troisième levier, et tous s'articulent finalement, hein, au sein d'une même journée, au sein d'un parcours, au sein d'une activité, c'est celui de l'augmentation de la recherche d'efficacité, hein, donc de réduction de consommation, de réduction de poids, etc. Et enfin, le dernier enjeu, quand on vient mettre de l'électricité ou du carburant dans ce qui nous déplace, c'est de s'assurer de la sobriété de sa provenance. Donc voilà peut-être à la fois enjeux et caractéristiques, et ensuite la manière d'aligner finalement ces sphères de la recherche, de l'enseignement et de l'entreprise ou de l'institution. Personnellement, là, je fais actuellement le choix, parce que ça répond aussi au fait de permettre aux élèves d'être dès leurs études des acteurs du changement, finalement de travailler sur des projets concrets. Là, cette année, par exemple, on a conduit, alors c'est pas sur le domaine de la mobilité, mais c'est une assez bonne illustration. On a quatre groupes d'étudiants ont travaillé pour le Shift Project sur le fait de modéliser et d'aller plus loin dans leurs hypothèses et dans la définition des leviers. Donc pour le Shift Project, dans le cadre de son plan de transformation de l'économie française sur le volet logement, par exemple. Et donc dès la deuxième année, ils ont d'un côté était en prise réelle avec le contexte, avec tous ces éléments dont on vient de parler, mais aussi ils ont apporté leur pierre sans attendre d'avoir fini leurs études, parce que finalement un cycle d'études de 3 ou 5 ans à l'échelle des échéances de 2030, c'est beaucoup.
Nicolas Fontaine, je vous voyais réagir. Également, je vous donne la parole.
Oui, peut-être pour une dernière prise de parole. Oui, moi je trouve ça, puisque aujourd'hui on est un invité par l'École des Ponts, et que moi je suis un ancien élève de l'École des Ponts, justement du département ville et environnement territoire, ça s'appelait, on a peut-être changé un petit peu de nom depuis lors. Je trouve que effectivement il y a plein de perspectives qui s'ouvrent aux jeunes ingénieurs des ponts aujourd'hui dans tous les domaines qu'on a évoqués, et que l'important est à la fois de se former aux nouvelles technologies et de comprendre cet environnement, mais aussi, comme on l'a dit, d'avoir une vision sur le long terme et d'avoir aussi des raisonnements assez simples et de pouvoir comparer les choses, les évaluer pour se placer dans un cadre qui soit celui d'une politique soutenable, parce qu'on a besoin d'une politique soutenable. Il faut non seulement viser les actions qu'on veut faire aujourd'hui, mais aussi se projeter à 2030 et à 2050. Et je pense que il y a vraiment beaucoup de choses passionnantes à faire pour ces jeunes ingénieurs qui sont aujourd'hui dans votre formation à l'école et qui vont commencer leur vie professionnelle dans les années à venir. Voilà. Et je leur souhaite bon courage et beaucoup de plaisir.
Merci d'initier les conclusions à ces échanges. Marie-Claude Dupuis, est-ce que les innovations technologiques seront également au centre, on le disait tout à l'heure, de l'évolution de la mobilité urbaine, hein, qu'il faut impérativement aujourd'hui structurer et dans laquelle il faut trouver une cohérence, hein, si je retiens bien ce qui a été dit.
Oui. Tout à fait. Et pour mon dernier mot, ça serait en termes de cohérence. On a parlé cohérence des différents modes de mobilité proposés. J'insisterai aussi sur cohérence entre offre de mobilité, politique de mobilité et politique urbanisme. Il faut vraiment qu'il y ait une approche cohérente maintenant entre la programmation des infrastructures ou de l'offre de transport et de l'urbanisme. Je parlais des hubs urbains. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire autour de cette mise en cohérence, on va dire.
Oui, les mobilités mettent en avant les fractures sociales, entre guillemets. Plus on habite loin, plus la mobilité coûte cher.
Oui, mais même en termes de programmation d'infrastructures, on a eu l'occasion de parler, je ne veux pas rouvrir un débat, mais sur les EHPAD qui parfois sont installés là où il y a de la place, où les terrains sont pas trop chers, mais des fois loin de l'accessibilité du bus. Les parkings, l'idée n'est pas de favoriser l'usage de la voiture, mais plutôt de favoriser l'usage des transports propres et partagés. Et il faut aussi donc penser urbanisation, les micro-quartiers, on parle de la ville du quart d'heure, qu'est-ce que c'est, d'avoir des approches cohérentes entre programmation, PLU et mobilité, en fait, aussi.
Donc, on est sur des enjeux complexes, si je vous comprends bien. François-Laurent Touzin, pour vous, en guise un petit peu de conclusion sur ces perspectives et enjeux pour demain et après-demain, qu'est-ce qui se dessine? Est-ce que...
Écoutez, non, c'est, je vais peut-être plutôt illustrer par rebondissant sur ce que vient de dire Marie-Claude Dupuis qui tombe à point nommé parce que finalement le choix de réunir dans un même département ville, environnement, transport, eh bien, correspond précisément à cet enjeu crucial d'articulation de l'urbanisme et du transport. Articulation dans l'espace, articulation fonctionnelle et articulation dans le temps. Puisque finalement, entre le moment où on planifie une infrastructure de transport et le moment où on la réalise, elle est mise en service, il se passe pas mal de temps, ça laisse du temps à la ville pour se préparer. Et alors c'est quelque chose qui est très complexe, qui mêle le politique, le technique, l'économique, ce sont de très beaux exercices d'ailleurs sur lesquels on va travailler l'année prochaine avec les élèves de deuxième année.
D'accord. On parle notamment d'ailleurs du, moi je regardais en préparant ces échanges, de l'arrivée notamment de téléphériques dans les milieux urbains, c'est encore un nouveau mode de transport. Fabien, Laurent, je vous laisse vous conclure oui, à votre tour, vous donner des perspectives.
Je vais citer un de mes axes forts de recherche avec mon équipe, qui est finalement de concevoir l'économie circulaire de la mobilité en posant ça comme principe de base avec la figure d'un cercle sur lequel circulent des véhicules qui font leur cycle de service en même temps. Et donc, l'idée de ça, c'est que vraiment penser les formes dans l'espace, effectivement, et puis se servir des formes dans l'espace pour concevoir une mobilité qui soit low cost. Donc j'insiste sur ce low cost, à la fois pour les finances publiques, pour l'usager, pour que ce soit une formule vraiment accessible, et puis pour l'environnement, bien sûr. Donc une mobilité low cost, c'est ça dont on veut. Après, ça nous inspire pour voir qu'est-ce qui peut être partagé en pensant beaucoup aux compagnies aériennes low cost, comment elles ont construit leur modèle d'affaires avec effectivement un socle ouvert au plus large nombre et puis ensuite des options de confort en vrai, des options de confort qu'on fait payer et paye qui veut, si je peux dire, par rapport à ce socle. Voilà, c'est ça le modèle d'affaires qu'on essaye de promouvoir pour la mobilité de demain.
Avec des mobilités variées selon effectivement les besoins, les demandes, mais des mobilités à la fois optimales, inclusives et efficaces et harmonieuses. C'est ce que vous dites tous. On a dépassé le temps qui nous était dévolu pour aborder ce sujet complexe et riche des mobilités. Quelle transformation après la crise sanitaire? Je pense qu'on a dégagé plein de pistes que les gens vont tous réfléchir. Et puis, on fera un petit compte-rendu prochainement. Merci à chacun d'entre vous d'être intervenu. On est un peu frustrés parce qu'on n'a pas pu aller encore plus loin. Il y aurait tant à dire sur les mobilités. Et je laisse la parole à Marie-Christine Perth.
Merci Stéphane pour cette animation dynamique et merci surtout à tous les intervenants qui ont pu partager leur vision, analyse, nous inspirer énormément, académiques, opérateurs, collectivités pour les années à venir. Donc il nous reste à remercier tous les participants à cette matinale qui sont restés jusqu'à la fin et au-delà et vous donner rendez-vous pour les fidèles des matinales le 9 novembre prochain. Sur un sujet encore secret. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à très bientôt.